Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Salut à tous, l'Intégral Foot qui se poursuit sur RMC. Grand après-midi de foot et de rugby sur nos antennes avec les 16e de finale de Coupe de France en direct et en intégralité. On est avec Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Bonne année
à toi.
Bonne
année bien sûr.
Bonne année ouais, Kevin.
Bonne année à toi aussi.
On se régale
à tous les auditeurs.
Pour ces 16e de finale de Coupe de France. Donc tous les matchs, on a des envoyés spéciaux absolument partout, présents sur tous les terrains. 4 rencontres en ce moment. On joue les deuxièmes périodes de 4 matchs. On va rappeler le temps et le score avec nos envoyés spéciaux sur ces pelouses. D'abord à Brest, au stade Francis Lebet, Brest-Bordeaux. Xavier Grimaud, salut Xavier.
Salut François, salut Kevin. Et c'est l'heure salut de Xavier. Jeu à Francis Lebet. Meilleurs vœux à vous deux. 1-0 pour Brest, le pénalty de Mounier à la 36e.
Du côté de Nantes, Nantes-Vitré au stade de la Beaujoire. David Filippo, salut David.
Salut François, salut Kevin. La 61e, 1-0 pour le FC Nantes. Le but de Blas à la 25e.
Et ça a bougé récemment entre Cannes et Toulouse au stade Pierre de Coubertin à Cannes. Clément Brossard, salut Clément.
Salut François, salut Kevin, bonne année messieurs. 56e, 1-0 pour Toulouse, le buteur Rataro à la 51e.
Et un match alors qui est quasiment plié, on peut le dire maintenant. Versailles, club de National 2 face à La Roche-Vendée, club de National 3. À Versailles, Kevin Gasser, salut Kevin et bonne année.
Salut François, salut Kevin, bonne année messieurs. Salut ouais, Kevin. 4-0, bonne année. 4-0 pour le FC Versailles face à La Roche-Vendée Football. À noter quand même la 53e, le poteau du numéro 10 de La Roche-Vendée Football qui avait pas chanceux parce qu'il avait déjà buté sur le gardien du FC Versailles sur penalty. Donc 4-0 toujours pour le FC Versailles.
Et on va suivre également à partir de 16h Montpellier-Strasbourg à la Mosson, Bastia face à Clermont, Nancy qui reçoit Rennes et Bergerac, club de National 3 face à Créteil, club de National. On suit également le foot espagnol puisque le Real Madrid avec Karim Benzema titulaire et capitaine est mené à la mi-temps par Retafe lors de la 19e journée de Liga, 1-0, petite surprise. On suivra la deuxième période dans un instant. Et puis du rugby aussi au programme, la suite de la 14e journée de Top 14 avec Pau face à Brive, duel de mal classé qui pour l'instant tourne en faveur des Palois. Au stade du Hamour, trouve Paul Lafitte. Salut Paul.
Salut François, salut Kevin et meilleurs vœux évidemment à vous tous.
Bonne année.
Ouais, la deuxième mi-temps qui a redémarré il y a un petit peu plus de 2 minutes et déjà des points marqués par la section paloise. Une faute bréviste après quelques secondes de jouer. Évidemment Antoine Astoy, l'un des meilleurs réalisateurs de ce championnat de France, qui indique les poteaux et des 40 mètres. Il enquille une 4e pénalité pour porter le score à 19-10 en faveur de la section paloise face au CA Brive. Donc 2 petites minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps.
Et il y aura encore du suspense jusqu'à la fin de la rencontre que l'on va suivre avec toi Paul. Merci beaucoup. À 16h UBB Biarritz également à suivre en direct sur RMC. C'est le premier, le leader du top 14 contre le dernier. 18h Castres La Rochelle et 21h05 Le Loup face au Racing 92. Voilà pour cette 14e journée du top 14. Je vous rappelle également que Montpellier-Toulon a été reporté en raison de 4 Covid. Le Covid qui perturbe beaucoup Bordeaux. Bordeaux, on l'a dit hein, depuis le début de cet après-midi, qui est venu avec seulement 7 pros face à Brest. Et pour l'instant, eh bien, ça ne fonctionne pas pour les jeunes Bordelais. Xavier Grimaud, mené 1-0.
Ouais, c'est compliqué. 1-0, la 63e pour les Brestois. Il y avait 6 pros hein, sur la pelouse, dont le gardien David Rouard qui vit pourtant son premier match, un troisième gardien de l'effectif bordelais. C'est lui qu'on voit le plus parce que Brest domine cette rencontre. Magnifique parade il y a quelques instants d'ailleurs sur un centre venu de la gauche, un geste acrobatique de Dirvin Cardona et parade spectaculaire de David Rouard qui clairement va faire bonne impression, va peut-être marquer quelques points, mais bon, c'est plus facile pour un gardien de briller parce que Bordeaux est acculé. Et Kevin, bon, il y a trop de jeunes pour que Bordeaux arrive à être cohérent et à tenir la distance. Il y a notamment offensivement, c'est 0 tir pour l'instant pour les Bordelais.
Moi, je trouve qu'ils s'en sortent même plutôt pas mal pour une équipe qui alors c'est bien sûr sans leur manquer de respect, mais qui n'a rien à faire sur le terrain aujourd'hui parce que les conditions elles sont quand même incroyables avec autant de joueurs indisponibles à cause du Covid que la fédération ait maintenu ce match. C'est quand même surréaliste. En tout cas, les jeunes Bordelais, ils font ce qu'ils peuvent.
Et la transversale touche à l'instant par Franck Honora pour les Brestois. La 65e, 1-0 pour Brest qui malgré tout n'est pas à l'abri. Donc sait-on jamais pour ce Bordeaux un peu new look pour ce début d'année 2022. La 65e, 1-0 pour Brest.
Rien n'est fait effectivement. Alors Kevin, tu dis qu'il fallait peut-être reporter cette rencontre. C'est vrai que les Bordelais étaient dans leur droit de le demander, mais si on commence à reporter toutes les rencontres, on n'ira jamais au bout de cette Coupe de France.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais François, mais là, il y avait plus de 20 joueurs indisponibles.
21
joueurs indisponibles. C'est quand même très, très compliqué de maintenir un match entre deux équipes de Ligue 1 comme ça. C'est pas des équipes qui jouent la Coupe d'Europe. On aurait pu trouver peut-être un créneau pour le faire. Alors, je dis pas qu'il faut reporter un match dès qu'il y a 3 ou 4 cas de Covid, malheureusement. Mais là, 20 cas, c'est exceptionnel.
Ouais, alors après, ça permet à des jeunes, effectivement, de se mettre en valeur, même si pour l'instant, on l'a dit avec Xavier, Bordeaux est mené, mais rien n'est joué, bien sûr, dans cette partie. Ils ne sont qu'à un but de rejoindre le stade brestois. C'est la même chose, d'ailleurs, pour Vitré face à Nantes, David Philippot, au stade de la Beaugeoire. Les Nantais qui dominent cette rencontre depuis la première période. Est-ce que tu sens que Vitré peut revenir?
Oui, dans cette deuxième période, effectivement. À 66 minutes de jeu, 1-0, le but de Blas à la 25e. Et dans cette deuxième période, on sent que les Vitréens, ils sont en train de, au fur et à mesure, se lâcher un peu plus. Laurent Hervé, le coach, va faire un changement. Là, il y a deux attaquants qui vont entrer en jeu, mais les Nantais, ils sont pas à l'abri, hein. Ils ne mènent que d'un but. Et donc rien n'est fait dans ce match. Ce sont les Nantais, justement, qui sont à l'attaque. Ils viennent d'obtenir un corner qui n'a rien donné, mais rien n'est fait dans ce match. 1-0 pour le FC Nantes face à ce pensionnaire de Ligue 2, hein. Dernier en Ligue 2, cette équipe de d'Ille-et-Vilaine, de Vitré. Dernier, une seule victoire cette saison. Et donc 1-0 pour le FC Nantes. But de Blas à la 25e, mais rien n'est fait.
Tu peux peut-être rappeler, David, parce que pour ceux qui nous rejoignent, pourquoi ça se joue à Nantes, au stade de la Beaugeoire, alors que Vitré est en National 3.
National 2, oui, le match a été inversé en début de semaine dernière pour des raisons de sécurité. Les instances craignaient des heurts entre Ultra Rennais et Ultra Nantais, puisque Vitré, c'est tout près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Donc ils ont décidé d'inverser la rencontre. Ça devait se jouer dans le petit stade. En tout cas, le club de Vitré voulait que ça se joue dans son petit stade de 3. Ils auraient pu accueillir 3500 spectateurs. Là, il n'y en a que 300 Vitréens. En tout cas 300 venus en bus ici à la Beaugeoire, donc c'est vrai qu'il n'y a pas la même ambiance. Je disais tout à l'heure à Thibaut et Manu que j'aurais voulu voir ce match du côté de Vitré avec une ambiance un petit peu plus chaude. Je pense que ça aurait été un tout autre match, mais voilà, on joue la 67e, rien n'est fait, 1-0 donc pour le FC Nantes seulement face à Vitré.
Malgré ce gros avantage de jouer à domicile, les Bien Nantais sûr. Qui n'arrivent pas à faire la différence, Kevin.
Ouais, mais c'est compliqué, hein, parce que on le sait, bon, même si.
Et ça fait 2 pour Nantes, justement. Ça fait 2-0 pour Nantes. Fabio sur le côté droit qui déborde et qui donne à Jubels qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Voilà, c'est terminé, hein, sans doute pour les joueurs de Vitré. On le voit dans le visage de Laurent Hervé, le coach vitréen. C'est sans doute terminé de cette Coupe de France pour ce club de National 2. Jubels qui marque face donc à Vitré. 2-0 pour le FC Nantes après 68 minutes de jeu. 2-0, c'était déjà le score de Nantes en quart de finale contre Vitré il y a 2 ans, en mars 2019 à Laval. Les Nantais s'étaient imposés 2-0 assez tranquillement. Et bien là, c'est un peu la même chose finalement. 2-0 pour le FC Nantes après 68 minutes.
Les Nantais qui arrivent à faire la différence, François, à domicile grâce à ce gros avantage de jouer chez eux.
Tu vois, François, c'est pas si difficile pour le FC Nantes finalement.
Ah oui, voilà. Ouais. Ah, il suffisait de poser la question.
Non, mais c'est vrai que je me répète, j'aurais voulu voir ce match à Vitré. Même pour nous, journalistes, c'est aussi sympa d'aller dans un contexte, un petit club amateur. Il y aurait eu, vous imaginez, 3500 personnes autour, peut-être pas de la main courante, mais pas loin, du côté de Vitré, même si c'est un plus grand stade quand même, c'est pas un stade de campagne non plus. Mais je pense que voilà, ça aurait pu galvaniser un peu les joueurs de Laurent Hervé s'ils avaient joué chez eux. C'est bien dommage.
Bon, en tout cas, ça permet de relancer des joueurs comme Jubels, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu et qui marque avec Nantes là.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je les trouve quand même assez sérieux, les Nantais, avec là un bon débordement, hein, sur le côté, Jubels qui est au deuxième poteau, qui récupère ce ballon. Non, c'est bien joué de la part du FC Nantes qui prend ce match au sérieux.
Ouais, non, Jubels, c'est son premier but, il me semble. Il avait été passeur décisif lors du fameux match contre Lens. Vous en souvenez, on le commentait avec Xavier et Grimaud. La victoire 3-2, c'est lui qui avait donné, je crois que sur le deuxième but, il avait été passeur décisif pour Colomouani. Il n'était pas au top, hein, depuis le début de ce match, Jubels. Ça va lui faire du bien de marquer ce but là face à, même si c'est face à
National. Il a pas mal joué quand même, Jubels, cette saison. Il a fait quelques matchs.
C'est quand même
sur les dernières semaines.
Ouais, peut-être oui, un peu plus.
Oui, mais sur les dernières semaines, il a joué un petit peu plus.
Un petit peu plus, mais. Ouais. Voilà, on attend. Alors, il risque de jouer peut-être un peu plus, que Moses Simon est parti à la CAN, ouais, à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il est possible qu'il joue un peu plus durant ce mois de janvier. 2-0 pour Nantes, la 70e.
En tout cas, effectivement, ça peut lui faire du bien. Oui, Kevin.
Ouais, je disais, c'est un éternel espoir, hein, lui. Ouais. On le sait, ça doit pas être si facile à assumer quand si jeune, t'es vendu si cher. Et on voit que petit à petit, il a l'air de trouver ses marques.
Attention, Rolly Pereira! Qu'est-ce qu'il fait, Rolly Pereira? Il est tout seul! Est-ce qu'il va y avoir? Oh là 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 là, il s'est présenté tout seul face au gardien de Vitré et il a même pas frappé. Et ensuite, le ballon est revenu dans les pieds de Sébastien Corchet. Ouais, il s'est sifflé même. Rolly Pereira, il aurait quand même pu marquer, Kevin. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, je pense aussi qu'il aurait pu marquer, oui.
Là, il a vraiment tergiversé. Alors, il a même pas frappé. Il a donné finalement à Korchka qui a été contré. Ça sera un corner. 70 minutes de jeu, 2-0. Donc, pour le FC Nantes. Et oui, je suis d'accord. Hein, Jubel, c'est un éternel espoir. Hein. Je crois qu'il avait été, il avait pas signé pro à Lyon. Il était venu acheté par Monaco. Je sais plus la somme exacte, mais une grosse, grosse somme. Je crois, on était même pas loin de 20, je crois. Je crois que c'était 20. Ah, je vais vérifier. Mais oui, oui, on attend beaucoup de ce joueur qui a très, très peu joué lors des dernières saisons du côté de Monaco. Il est venu en prêt cet été à Nantes. Alors, il jouait un petit peu plus, mais pas énormément quand même.
Alors, c'est bien 20 millions, effectivement, qu'il avait été recruté par Monaco. Et puis là, il est prêté à Nantes où il a joué 8 matchs. Hein. 8 matchs, c'est son 9e match seulement cette saison en comptant la Ligue 1 et la Coupe de France. 8 matchs pour Jubels, qui marque donc ce deuxième but pour Nantes qui mène 2-0 face à Vitré au stade de la Beaujoire. On va aller à Cannes où c'est toujours très serré entre Cannes, club de National 3, et Toulouse, le deuxième de Ligue 2. Les Toulousains qui mènent toujours au score, Clément Brossard.
Oui, toujours par cette petite marge d'un but. Un but à zéro pour le TFC sur la pelouse de Cannes après 67 minutes de jeu. Ratao a ouvert le score donc à la 51e pour les Toulousains. Et je vois que tu sondes un petit peu tout le monde pour savoir si le petit peut faire l'exploit. Moi, je peux dire que oui, ils peuvent le faire. Et je pense que tous les observateurs ici au stade de Pierre de Coubertin pensent la même chose. On a eu 10 minutes de grosses factures pour les Canois avec même une parade de Peterson sur une magnifique frappe bien puissante du capitaine Cédric Gonçalves. Et puis quelques secondes plus tard, c'est Mehdi Kadi qui a tenté sa chance. Pareil, lourde frappe juste au-dessus de la barre de Isaac Peterson. Ils sont agressifs, ils sont efficaces aussi dans les duels. Les joueurs de Jean-Noël Cabezas, l'entraîneur canois qui est debout depuis le début de la partie sur son banc, il sent qu'il y a un coup à faire. Et puis, on va le rappeler tout de même, sur le tour précédent, Cannes a éliminé Rodez après avoir été mené 1-0, il s'impose au pénalty. Cannes avait éliminé Dijon après avoir été mené 1-0, il s'impose au pénalty. Pourquoi pas 203, messieurs. 68e, 1-0 pour Toulouse face à Cannes.
Il y a quelque chose qui me perturbe, c'est le maillot jaune pour Toulouse, alors que le maillot jaune, pour moi, Cannes, c'est Zidane, Mikou, enfin voilà, c'était le maillot historique, alors qu'il joue en rouge.
Ouais, il joue en rouge, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est Cannes, c'est le club à la grande histoire avec les passages de Zidane, de Vieira, de Mikou, de Peter Luxin également. Et puis aux abords du stade, alors que ça siffle un petit peu puisque les Toulousains jouent la montre et empêchent le milieu Christophe Desmartins de jouer son coup franc. Aux abords du stade, je discutais un petit peu avec les anciens qui ont connu évidemment les années 1990 et c'est 22 saisons de Ligue 1 hein, tout de même pour ce club historique. Ils avaient sur les épaules les maillots des années 90 et ils espèrent revivre de belles heures, de belles pages avec l'AS Cannes. Il y a eu ce parcours en 2014 et je pense qu'il est encore dans toutes les têtes des Canois avec un quart de finale, une défaite contre Guingamp après avoir éliminé l'Estac, l'AS Saint-Etienne, Montpellier alors que Cannes était en N2. Et donc cette épopée trotte encore un petit peu dans les têtes canoises. 20 minutes encore à jouer, un petit peu plus, 1-0 pour Toulouse.
Très bien, merci beaucoup. On revient pour la suite bien sûr de ce Cannes-Toulouse. Un détour par le rugby puisque ça a bougé entre Pau et Brive, Paul Lafitte.
Oui, la réduction de l'écart du CA Brive, Enzo Hervé qui enquille une pénalité pour une faute paloise, 19-13. Les brivistes qui bénéficient là aussi d'une pénale touche et qui viennent camper dans les 22 adverses à lancer un alignement au grand complet. François Avelé jusqu'au bout de cette action, les brivistes qui peuvent être dangereux, pourquoi pas repasser devant la prise de balle dans les airs de la troisième ligne du CA Brive. Il s'agit de Rétif Maré et finalement le ballon sera rendu au palois car on n'a pas libéré assez rapidement évidemment côté briviste. Ce score donc très serré entre les deux équipes qui joue le maintien évidemment, 19-13 en faveur de la section paloise. On joue la 54e ici au stade du Hameau.
Eh bien, on va suivre bien sûr la fin de cette partie entre Pau et Brive. On va suivre également la fin des premiers matchs de 16e de finale de Coupe de France. Le temps, le score, messieurs, d'abord à Versailles, puisqu'on n'y est pas allé. Versailles contre la Roche-Vendée, Kevin Gasser. Kevin Gasser une fois, Kevin Gasser deux fois. Bon, 4-0 pour Versailles face à La Roche-sur-Yon. À Cannes, Toulouse mène toujours 1-0. Et puis à Nantes, Nantes face à Vitry, David Filippo.
La 74e, 2-0 pour le FC Nantes. Début signé Blas et Jeubels.
Brest face à Bordeaux, Stade Francis Lebet, Xavier Grimaud.
La 74e, 1-0 pour Brest. Mounier sur pénalty en première période.
Allez, on revient dans un instant sur RMC. Vous restez bien avec nous avec tous les matchs en direct et en intégralité de ces 16e de finale de Coupe de France. A tout de suite.
RMC Intégral Foot Coupe de France. RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 15h16 sur RMC. Magnifique après-midi de sport et de foot, en particulier avec les 16e de finale de Coupe de France que l'on suit en direct et en intégralité avec des envoyés spéciaux absolument partout. Toujours 1-0 pour Toulouse face à Cannes, Clément Brossard.
Tout à fait, alors qu'il reste un petit peu moins de 20 minutes à jouer, un nouveau changement là côté toulousain avec l'entrée de Bafodé Diakité, défenseur central. On a sur les arrière-gardes parce que Cannes pique sur les petits espaces là laissés par les Toulousains. La meilleure attaque de Ligue 2 est en difficulté sur la plus de Cannes, et pourtant Philippe Montagny avait décidé d'aligner ses meilleurs hommes. Attention tout de même à cette incursion là dans le camp cannois de la part du TFC avec Skita qui va trouver sur le côté droit Dessler, le centre de Dessler au point de pénalty. Oh, c'est passé juste au-dessus. Au-dessus de la cage de Florian Verplanque au second poteau. Il y avait Bagraoui qui était là pour recueillir ce ballon. Un petit peu de laxisme encore une fois au niveau du marquage de la part de la défense cannoise. On est passé proche du break, mais toujours 1-0 pour Toulouse. Il reste 18 minutes à jouer.
Allez, on va tout de suite faire un détour par le Quintet à Vincennes, retrouver Frédéric Kita. Bonjour Frédéric.
Bonjour François, bonjour à tous. Quintet Plus aujourd'hui important puisqu'il s'agit du Prix de Bourgogne, la 5e course qualificative au Prix d'Amérique qui se dispute sur la distance de 2100 mètres avec un départ à l'Autostar, et c'est le numéro 7 Ville d'Oisas qui a pris un départ volant pour s'installer au commandement. Les concurrents sont à peu près 1000 mètres du but. En deuxième position, on a également un concurrent bien placé, c'est le numéro 2 Cockstyle. À son extérieur, le numéro 13 Chica de Joute vient fort à l'épaisseur notamment du numéro 7 Ville d'Oisas qui a toujours la tête et la corde. Le numéro 4 Donde Fanutilzet est très bien placé en 3-4e position, et le numéro 14 Guderi Pré qui effectue sa rentrée après 9 mois d'absence est à peu près en 5-6e position, plutôt dans le wagon de l'extérieur. C'est toujours le numéro 7 Ville d'Oisas qui occupe la tête de l'épreuve avec Eric Raffin, son sulky, hein, qui est le sulky d'or, le driver qui a gagné le plus de courses l'an passé, toujours en première position. Donc ce numéro 7 Ville d'Oisas à son extérieur, le numéro 13 Chica de Joude. On a en 3e position bien placé côté corps le numéro 2 Cockstyle. Le numéro 4 Don Fanutilzet est en 4e position à l'extérieur. À la corde, on a la jument Billy de Montfort, le numéro 9 en 5e position, et les concurrences entrent dans le tournant final avec toujours le numéro 7 Ville d'Oisas qui est en tête, mais il est attaqué notamment par le numéro 13 Chica de Joule, toujours bien placé dans son sillage, le numéro 2 Cockstyle, et au numéro 4 Donde Fanutilzet. L'attraction de l'épreuve commence à passer à l'action tout à l'extérieur en troisième épaisseur. Entrée dernière ligne droite avec le numéro 7 Ville d'Oisas qui occupe toujours l'avantage devant le numéro 2 Cockstyle qui essaye de sortir de son sillage. Toujours le numéro 7 Ville d'Oisas qui est en tête, le numéro 2 Cockstyle essaye de l'attaquer, le numéro 7 qui semble se faire dépasser pour l'instant par le numéro 2 Cockstyle qui a eu un parcours de rêve et qui va l'ajuster. C'est le numéro 2 Cockstyle qui va l'emporter dans cette épreuve. Une cote d'outsider à peu près 20 contre 1. Le numéro 2 Cockstyle qui s'impose avec Gabriele Gelormini à son sulky qui devance donc notamment le numéro 7 Ville d'Oisas qui a animé l'épreuve, et d'autres concurrents qui ont bien fini. Donc c'est le 2, petite surprise dans cette épreuve, qui s'impose Cockstyle.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Frédéric. Les 16e de finale de Coupe de France. Il y a donc 1-0 toujours pour Toulouse à Cannes, on l'a entendu. On va rapidement le temps et le score à Brest. Brest-Bordeaux, Xavier Grimaud.
1-0 également. Attention avec ce ballon d'Honora qui va passer juste devant le but. 1-0 pour les Brestois. Le pénalty de Mounier à la 36e. Et Bordeaux qui est inoffensif. Donc Brest pour l'instant semble avoir les choses en main.
Nantes a fait la différence face à Vitré au stade de la Beaujoire, David Filippo.
La 79e, 2-0 pour les Canaries. But de Blas, 25e, et Jeubels, 68e.
Et Versailles qui mène largement face à La Roche-sur-Yon, Kevin Gasser.
Oui, 75e minute, toujours 4-0 pour le FC Versailles, club de National 2 face au Vendéen de La Roche-sur-Yon, club de National 3. Il reste donc 15 minutes à jouer, 4-0 pour le FC Versailles.
Et le rugby également, la 14e journée entre Pau et Brive, Paul Lafitte.
Quasiment l'heure de jeu, la section paloise ne mène plus que 19-13. Attention à cette action individuelle avec Clovis Lebail qui est plaqué à hauteur des 22. Il avait cassé un premier plaquage bréviste, un point de fixation. Donc pour l'instant, 6 points d'avance pour les Béarnais face aux Corréziens.
Merci beaucoup Paul. Kevin Diaz qui est avec nous également pour cette intégrale foot sur RMC, sur ces matchs de Coupe de France, ces premiers matchs, c'est encore très très serré entre Cannes et Toulouse, hein. Tout est possible encore pour les Cannois.
C'est serré, et puis je vais te dire la vérité François, moi je suis un peu supporter de ce club de Cannes depuis qu'on a reçu sa présidente Annie Courtade.
Deuxième pénalty pour Brest, Kevin.
On va en parler d'Annie Courtade, tout à fait. Vas-y Xavier.
Ouais, deuxième pénalty pour Brest avec Jérémy Ledouaron qui est accroché dans la surface de réparation, la 80e, et voilà. Sur une histoire de pénalty, les Brestois qui vont sans doute faire le break, ou peut-être faire le break, du moins, et sans doute peut-être tuer le suspense. Le premier avait été transformé par Steve Mounier. Cette fois, c'est Romain Fèvre qui va le tirer. Alors j'ai pas d'image, hein, vous pourrez me dire, mais effectivement la jambe de Jérémy Ledouaron semble bel et bien touchée par le défenseur bordelais.
Kevin.
Le pénalty semblait logique.
Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a contact. Après, ça va très très vite. C'est Romain Fèvre.
Oh, il tente la Panenka, il y est. Oh, la Panenka. On aime ou on n'aime pas une Panenka qui est excellemment bien faite en tout cas. Et David Rouard qui finit sur les genoux et qui regarde Romain Fèvre, l'œil un petit peu triste, certainement parce qu'il s'est bien fait avoir par Romain Fèvre sur ce coup-là. La petite Panenka, pleine de talent et pleine de vis. Moi, je suis pas très fan, Kevin. Je sais plus que si t'aimes ça, toi, les petites Panenka comme ça. En tout cas, ça fait 2-0 pour Brest face à Bordeaux. Et les jeux sont faits, donc il reste 10 minutes à jouer.
Alors, il y avait bien pénalty parce qu'il y a quand même un contact. D'ailleurs, Pembélé n'a rien dit. Par contre, alors, je vais te dire, j'adore la Panenka. Mais la Panenka face à une équipe de Bordeaux qui a envoyé ses U19 et un très jeune gardien, je suis moins fan.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai que ça peut diviser, hein, ça. Je suis d'accord. Ce geste-là, elle est bien faite. Hein,
je sais que c'est ton geste préféré, François.
Non, mais moi j'aime bien. Je trouve ça très très beau. Bah, en finale de Coupe du Monde, c'est parfait. Mais c'est vrai que là, contre Bordeaux, t'as raison, Kevin, et contre ce jeune gardien en plus.
Et puis je vais te dire, elle est mal réalisée en plus.
Ah bon ?
Elle est ratée cette Panenka. Une Panenka, ça doit jamais rebondir avant la ligne comme ça a été le cas. Il a eu beaucoup de chance et d'ailleurs tu vois sa célébration, il est assez humble parce qu'il a eu énormément de chance et le gardien il part du bon côté, même s'il se rate, il l'a. Hein. La Panenka, c'est pas du tout le geste qui doit rebondir sur la ligne, ça doit rebondir dans le but.
Bon, venez nous dire en tout cas sur l'appli RMC Direct Studio ou sur le hashtag RMC Live ce que vous pensez de ce geste et si vous trouvez que c'est bien ce qu'a fait Romain Fèvre là face aux jeunes bordelais. En tout cas 2-0 pour Brest face à Bordeaux. On revient sur Annick Courtat, tu voulais en parler, la présidente emblématique de Cannes qui est toujours menée 1-0 par Toulouse.
Exceptionnel, on avait eu la chance de la recevoir dans l'after avant les fêtes, mais son discours, le projet qu'elle met en place, le fait qu'elle ait été rappelée par le maire pour s'occuper du club de foot après avoir été une légende du club de volley, honnêtement son discours était tellement rempli de réalité, de réalisme et surtout de lucidité, de professionnalisme aussi, donc c'est vraiment pas un hasard de voir le club de la AS Cannes revenir au premier plan, en tout cas dans cette Coupe de France, et j'espère pour eux qu'ils vont monter en National 2, surtout en championnat.
Alors on suivra bien sûr, on va retourner à Cannes dans un instant, mais on va faire un petit détour par Nantes, la Beaujoire, Nantes face à Vitré, David Filippo, avec le 2-0, le deuxième but encaissé par Vitré, est-ce que les amateurs y croient encore?
Ouais, la 83e 2-0, à l'instant, une petite occasion pour les joueurs de Vitré sur un coup franc mal dégagé par la défense nantaise et notamment Pereira Dessa, et le ballon revient dans les pieds d'un attaquant vitréen qui frappe, il était à l'entrée des 5m50 et le ballon qui passe à côté, on va dire, de la cage de Rémi Descamps, le gardien nantais qui remplace Lafont mis au repos, et Antoine Camboré qui en profite pour faire tourner un petit peu son effectif, et on voit beaucoup de jeunes du centre de formation, ça va faire plaisir ici à Nantes, on sait l'importance de la formation, il fait rentrer des jeunes comme Manvélian, Silla ou même Loan Doucet. 84 minutes de jeu, 2-0 pour le FC Nantes, des buts de Blas 25e et Jubels 68e.
Pau face à Brive, c'est le top 14, la 14e journée, Paul Lafitte.
La 61e, 19-13, toujours en faveur des Béarnais. Les deux équipes qui vont désormais jouer à 14, François, pendant 10 minutes. Double carton jaune pour Corato et pour Brennan. Suite à plusieurs mêlées fermées, eh bien, Tuel Tranini a sanctionné les piliers des deux équipes pour des entrées vraiment très complexes. Hein. C'est une purge de rugby depuis le début de cet après-midi dans ce match évidemment de mal classé pour le maintien. Et c'est un temps fort là pour la section paloise avec Martin Peuch, ancien capitaine, ancien joueur de Colomiers et qui essaie de franchir le rideau défensif, le relais de Clovis Lebail. On joue dans le petit périmètre, quasiment dans l'axe du terrain à 5 mètres de l'embut corrézien, et c'est cette fois-ci le soutien de Lucas Rey, le talonneur titulaire cet après-midi côté Béarnais, qui essaie à son tour de déchirer le rideau défensif, mais c'est plutôt compliqué avec une remise à l'intérieur de Zach Henry pour Jalé Vatubua, mais ça ne passe pas. Match très serré et très fermé entre les deux formations, donc pour l'instant 19-13 en faveur de la section face aux Corréziens.
Merci Paul. Le temps, le score sur les matchs de Coupe de France, Cannes face à Toulouse, Clément Brossard.
Il reste 10 minutes, 1-0 pour le deuxième de Ligue 2, Toulouse sur la pelouse de Cannes, le buteur Atao à la 51e.
Le temps, le score entre Brest et Bordeaux, Xavier Grimaud.
6 minutes encore à jouer, 2-0 pour Brest, 2 pénaltys, Mounier pour le premier, Fèvre pour le second.
Le temps, le score et les buteurs entre Nantes et Vitré, David Filippo.
La 85e, 2-0 pour le FC Nantes, Blas et Jubels.
Et Versailles qui mène face à la Roche-Vendée, Kevin Gasser.
81e minute de jeu, toujours 4-0 pour le FC Versailles, pensionnaire de National 2 face au Vendéen de La Roche-sur-Yon, National 3.
Et toujours 1-0 pour Rétafé face au Real Madrid en Liga, alors qu'on joue la 69e minute. On revient dans un instant pour vivre la fin de ces premiers 16e de finale de Coupe de France. Vous ne raterez rien. Il y a également du rugby au programme entre Pau et Brive. A tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 15h28, vous êtes sur RMC et vous suivez la Coupe de France, les 16e de finale. Vous ne raterez rien de cette Coupe de France et de tous ces matchs. On est absolument partout et on est avec Kevin Diaz pour nous accompagner tout l'après-midi. À 16h, il y aura le début de 4 rencontres. Nancy face à Rennes, Bastia face à Clermont, Montpellier face à Strasbourg et Bergerac face à Créteil. Mais en attendant, il y a encore du suspense entre Cannes et Toulouse. Seulement un petit but d'avance pour les Toulousains, Clément Brossard.
Et seulement 6 petites minutes à jouer encore, à espérer peut-être pour les Canois et pour ce stade Pierre de Coubertin qui pousse le pensionnaire de National 3. Ils avaient été menés face à Dijon, face à Rodez, et avaient renversé la situation pour s'imposer au tir au but. Attention à cette occasion toulousaine avec le deuxième but à portée de main et la parade encore une fois de Florian Verplanque, le gardien qui décidément repousse l'échéance. Le contre à venir pour les Canois avec Pelikadi sur le côté droit. Il s'est échappé du marquage, il va pouvoir avancer et gagner quelques mètres, servir Da Silva dans la surface de réparation. La bonne couverture finalement d'Anthony Rouault, 1-0, 6 minutes à jouer encore au stade Pierre de Coubertin.
Ah, il peut se passer encore pas mal de choses. Est-ce qu'entre Brest et Bordeaux, les Bordelais, les jeunes Bordelais se sont remis après le deuxième but encaissé par Brest sur une Panenka?
Oui, ils sont remis avec Josh Maja qui est entré en jeu, l'Anglais longtemps blessé, avec une première frappe détournée et là une énorme occasion face à face avec Gauthier Larsonneur. Il y avait hors-jeu visiblement. Il y avait hors-jeu parce que Larsonneur avait dégagé. Larsonneur avait sorti de toute façon la parade qu'il faut. Ils ont été un petit peu plus dangereux en deuxième période, les Bordelais, mais voilà, Brest est clairement au-dessus et va logiquement se qualifier pour les 8e. Attention à Ledouaron justement dans la surface. Non, ce sera sorti. 2-0, la 89e.
Brest qui était l'équipe de la fin de l'année, l'une des équipes de fin d'année, hein, Kevin Diaz, et qui confirme, alors certes, face à une équipe de Bordeaux très amoindrie.
Avec son équipe type, hein, Michel Dardakarian, il a joué le coup à fond.
Ouais.
Ouais, mais c'est toujours important d'enchaîner, hein, d'enchaîner les beaux résultats. Comme tu dis, ils étaient sur une superbe dynamique. Il a mis en plus l'équipe type, comme vient de nous dire Xavier. Ben, c'est important d'enchaîner en ce début d'année, de prendre des points dans les premiers matchs de championnat et surtout de se qualifier en Coupe de France.
Voilà, puisqu'on parlait de la Panenka qui divisait un petit peu, qui ne te plaisait pas spécialement, alors Xavier, Jérôme qui nous dit sur l'appli RMC Direct Studio que la Panenka ne le gêne pas, alors que c'est un supporter bordelais. Ce qui le gêne le plus, c'est l'attitude de la FFF qui a refusé de reporter cette rencontre. Voilà.
Évidemment, c'est pas forcément le même débat, mais oui, effectivement, il y a débat aussi, puisque Bordeaux, par exemple, on voit que le match d'Angers en Ligue 1, lui, a été reporté alors qu'ils ont un tout petit peu moins de cas de Covid que Bordeaux. Mmh. Voilà, Bordeaux ne pouvait pas reporter ce match, donc ils sont venus avec une équipe qui sera battue quand même assez vaillamment. On verra s'il y a des joueurs à ressortir pour Petkovic. Mais voilà, ils auront fait quand même honneur, ils n'auront pas sombré, les Bordelais.
Vitré qui devrait être déçu sans doute parce qu'ils espéraient sans doute recevoir les Nantais. Finalement, ça se joue à la Beaujoire, David Philippot, et ça se passe bien pour le club de Ligue 1.
Ouais, les Vitréens qui sont tout proches d'une élimination. On vient d'entrer dans le temps additionnel, 2-0 pour le FC Nantes. Une énorme occasion peut-être à venir pour les Nantes avec Loan Doucet qui redonne à Manvélian. Oh, il est contré, Manvélian, deux joueurs du centre de formation qui ont bien failli corser l'addition. 2-0 pour le FC Nantes, début de Blas 25e, Jebel 68e. Les Vitréens, ils auront cru vraiment en début de seconde période où ils ont un petit peu fait vaciller, un petit peu secoué les Canaries, et ensuite il y a eu ce but de Jebels à la 68e, et là c'en était terminé du suspense ici à la Beaujoire. Le FC Nantes sera donc en 8e de finale de la Coupe de France. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel, 2-0 pour le FC Nantes face à Vitré.
Et Versailles sera en 8e de finale, ça en est quasiment sûr maintenant. Kevin Gasser au stade Montboron à Versailles. Versailles qui domine la Roche-Vendée.
Oui François, c'est quasiment fini, 4 minutes encore à jouer, 4-0 toujours pour le FC Versailles qui file donc oui vers la première qualification en 8e de finale de Coupe de France de son histoire. Donc le club dirigé par Jean-Luc Caribard qui pourrait faire de ce 16e de finale un match historique. Il reste que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire, 4-0.
Et l'essai Bernet, le deuxième essai Bernet inscrit à l'instant par Thuma Manou. On le sentait venir, une pénale touche trouvée et dans le coup
couloir à 5 mètres de la ligne d'en-but par Antoine Astoy. La prise de balle dans les airs de la troisième ligne, le groupé pénétrant qui se désaxe et après eh bien, quelques secondes de jouer, évidemment la libération du jeune demi-mêlée remplaçant de la section paloise Alexis Levron pour Manu qui pivote, se retourne sur lui-même et inscrit donc le deuxième essai béarnais pour porter le score à 27-13 avant la transformation à venir pour Antoine Astoy. Auparavant, le buteur, l'un des meilleurs réalisateurs du championnat de France, eh bien, avait inscrit une pénalité lors du double carton jaune pour porter le score à 22-13. L'écart semble fait, messieurs, et Pau devrait normalement se diriger, même s'il reste encore 14 minutes à jouer, vers un succès importantissime pour le maintien face au CA Brive le 27-13, alors que monsieur Tuanini a demandé évidemment, François, la vidéo. Il va aller vérifier si il n'y a pas un en avant de passe vraisemblablement entre Alexis Levron et Thomas Manou, le premier centre béarnais. Oui, François.
Alors on va revenir vers toi. Tu nous dis si l'essai est validé ou non par l'arbitre.
Et hein. Ça fait 3 pour Nantes. 3 buts à 0. Ouais, on va pas s'emballer parce que bon voilà, c'est une N2 en face. 3-0 pour le FC Nantes, le centre de Corchia. Ah, il est signé à leur jeu. Pardon.
Excusez-moi. Bah, tu peux rien.
Et au dernier, j'avais pas vu qu'il avait levé. C'était Aymon qui avait marqué, mais il a été signé à leur jeu. Okay. 2-0 toujours pour le FC Nantes.
Je voudrais qu'on aille à Cannes parce que c'est la fin de la rencontre entre Cannes et Toulouse et c'est là où il y a du suspense, Clément Brossard.
Ouais, suspense haletant, vraiment, il reste 1 minute 15 encore dans le temps réglementaire et les Canois ont le ballon, le pensionnaire de National 3 qui a fait le coup contre Rodez, qui a fait le coup contre Dijon, et bien pousse encore pour venir à hauteur des Toulousains. Il y a un carton jaune sorti de la poche de Romain Lissorgue sur un retardement de la part d'un Canois, mais vraiment le suspense est entier puisque Cannes pousse, il reste une petite minute, okay. Désormais 1-0 pour Toulouse.
3-0 pour Brest.
3-0 pour Brest, le troisième but marqué par le Doiron et ce sera très certainement terminé derrière le coup d'envoi des Bordelais. 3-0 pour Brest.
C'est validé pour Manu, le centre de la section paloise transformé par Antoine Astoy. Et les Béarnais mènent désormais 29-13 sur un boulevard pour s'imposer donc face au CA Brive. Un petit peu moins de 13 minutes à jouer.
C'est fini à Nantes, David Filippo.
C'est fini à Nantes. Victoire et qualification du FC Nantes. Victoire 2-0. Des buts de Blas, 25e, Jebel, 68e. On va pas remercier les instances de la fédération parce que Fédération française de foot, parce que moi j'aurais voulu voir ce match jouer à Vitré, c'était tout à fait possible et c'est bien dommage. Voilà, élimination des joueurs de Vitré de National 2.
Terminé. Merci beaucoup David.
Terminé, même score, d'ailleurs 3-0 pour Brest face à Bordeaux. Mounier, Fèvre sur pénalty, le but de Ledoiron. Ça fait 7 ans que Brest n'a pas été en 8ème de finale de Coupe de France.
Vers 5-0 contre La Roche-sur-Yon. Calme Toulouse, Clément Brossard.
Ouais, dans les dernières secondes désormais de cette rencontre, le ballon perdu par Roux à l'instant, ça va offrir une possibilité de compte. C'est un 4 contre 1 à jouer pour les Toulousains. Oh, les petits rebonds qui empêchent les Toulousains d'aller jusqu'au but et finalement Skita juste à côté, ça va donner un peu d'espoir encore à cette équipe de Cannes alors que le temps additionnel n'a pas été donné, me semble-t-il. Il y aura peut-être encore quelques secondes à jouer, mais il a mangé la feuille là, on peut le dire, l'attaquant finlandais dans cette partie dans le temps additionnel, alors que Stade Pierre de Coubertin continue de pousser. Les Canois vont avoir le ballon pour ces derniers instants. Ils peuvent encore croire en leur chance, hein. C'est ce petit signe du destin là, ce genre de grosse occasion manquée.
Mais il reste du
ça
temps.
Peut jouer en leur faveur avec le décalage là-bas sur le côté droit des Martins qui a été chargé la bonne couverture une nouvelle fois d'Anthony Rouault. Ce sera une touche à venir dans le camp toulousain pour les Canois. Il reste quelques secondes à jouer dans le temps additionnel.
C'est terminé à Versailles, Kevin Gasser.
Oui François, c'est terminé, vous l'entendez peut-être derrière moi ou peut-être avec de l'écho, mais les supporters versaillais qui fêtent leur première qualification de leur histoire en 8e de finale de la Coupe de France, donc 4-0 face à La Roche-sur-Yon, donc c'est un jour historique pour les Yvelinois.
On retourne à Cannes pour la fin du match, Cannes face à Toulouse, Clément Brossard.
Oh, les Toulousains ont le ballon, les Toulousains mènent 1-0, on est dans le temps additionnel, 4 contre 4 à jouer. Forcément quand ça se découvre côté Canois, eh bien il y a beaucoup de place pour les Toulousains pour la meilleure attaque de Ligue 2 qui a marqué un seul petit but face aux pensionnaires de N3 aujourd'hui, bien organisé, qui a faibli une seule fois, ça a permis et ça a suffi à Ratao pour marquer l'unique but de cette rencontre pour le moment. L'arbitre qui regarde sa montre, qui va porter peut-être le sifflet à sa bouche, non, il va laisser jouer cette touche. En tout cas on est sur le côté gauche dans le camp Canois. C'est Keita, le latéral gauche, qui nous a permis de voir de beaux gestes aujourd'hui. Hein. Roulette, coup du sombrero, il a tout tenté et ils s'y sont allés vraiment avec ambition. C'est Canois, ce serait dommage si la route s'arrêtait ici. Skita qui a le ballon dans la surface de réparation, qui va pouvoir trouver son attaquant. Le très bon retour de la part du défenseur central Quentin Mathiapoulet. Les Canois qui vont se relancer. Encore quelques secondes à jouer. Encore peut-être la dernière offensive avec le capitaine Cédric Gonsalves, buteur face à Dijon il y a quelques jours, qui va chercher un centre là pour trouver la tête de son attaquant. finalement trop court. C'était Gonzalez qui était cherché. Le ballon récupéré par les Toulousains qui vont pouvoir se dégager une nouvelle fois. Il y a vraiment une grosse pression là, mise par les Canois, poussée également par leur stade Coubertin. Le centre à venir, il y a une faute en surface de réparation. Rien pour monsieur l'arbitre, les sifflets, puisqu'on espérait peut-être un pénalty dans cette fin de rencontre. Le ballon est toujours Canois avec Keita sur le côté gauche et la pression mise par Desmartin, ça se jette, le duel, le contact sur chaque ballon. Désormais ils y croient encore, les hommes de National 3, ils récupèrent le ballon alors que ça a été donné à l'instant par un Toulousain véreux. Keita, le dernier ballon peut-être à jouer, elle est trop court, il a tenté le contrôle en porte-manteau dans la surface de réparation. Julien Dominguez, le ballon dégagé en précipitation par les Toulousains. Il y a vraiment le feu dans la défense toulousaine mise par les Dragons de Cannes avec cette longue touche qui va arriver. On va finalement la laisser jouer pour le latéral droit Keita. Oh là là, ces dernières secondes, elles sont intenses. Tout le monde debout au stade Pierre de Coubertin pour cette pourquoi pas. Keita sur le côté droit, la longue touche du latéral pour trouver une tête, une première fois celle de Motia pour l'honneur à la surface de réparation. La frappe peut-être de Desmartin, contrée par la défense toulousaine. On n'a aucune vue sur le temps additionnel. Je ne sais absolument pas combien de temps il reste au Canois, mais des petites secondes. Certainement, des petites secondes. Ouais, vous avez peine, des écrans, vous? Oui, vous avez le temps ou pas? Parce que moi, je n'ai pas du tout. Je peux vous le dire.
Même pas.
Keita, Keita pour la dernière touche. Il est passé de la droite vers la gauche. Le stade est debout. La longue touche à venir pour chercher une tête, peut-être celle d'un partenaire. Ce sera dégagé en précipitation une nouvelle fois par un Toulousain. Mais Keita récupère le ballon sur le côté gauche. Oh, il nous fait un nouveau petit pont et un grand pont pour servir désormais son milieu de terrain. Ce sera un peu long et il a glissé. Et ça va être un renvoi au 6 mètres et certainement une qualification. Alors que vers Planck, le gardien a été monté. C'est terminé. Le parcours de Cannes s'arrête ici en 16e de finale après avoir battu Rodez, club de Ligue 2, après avoir battu Dijon, club de Ligue 2 à chaque fois au tir au but. Et bien cette fois, la marche était trop. Le TFC, 2e de Ligue 2, s'impose au stade Pierre de Coubertin, mais Cannes recevra les honneurs et peut être fier de son parcours. Annie Courtade, la présidente, sera fière de ses joueurs. C'est
et
une
le
certitude.
Troisième essai pour la section paloise. Le troisième essai de Tuimaba pour un score qui continue de gonfler 34 à 13 en faveur de la section face au CA Brive. Un petit peu moins de 9 minutes à jouer et maintenant le suspense de ces 10 dernières minutes, de ces 9 dernières minutes plus précisément, François, c'est de savoir si les Bernais seront capables d'inscrire un quatrième essai et donc de glaner le point de bonus offensif dans ce match pour le maintien. En tout cas, le score FC largement à l'avantage donc des Béarnais, même si M. Tuanini va encore une fois demander la vidéo, la confirmation, François, dans quelques instants, de l'essai de Tuimaba, le troisième pour la section paloise.
Merci beaucoup, Paul. On te retrouve dans un instant. Qualification de Toulouse, de Brest, de Versailles et de Nantes pour les huitièmes de finale. Voilà les premiers qualifiés. On parle des prochains huitièmes de 16e de finale qui débutent à 16h dans un instant. Donc vous restez bien avec nous et avec Kevin Diaz. On revient dans un instant. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 15h41, vous êtes sur RMC et on vibre avec la Coupe de France, les 16e de finale. Tout l'après-midi, ça a commencé à 13h45 et les qualifications à l'instant de Toulouse face à Cannes, 1-0 pour le club de Ligue 2 qui s'impose à Cannes. Brest se qualifie pour les 8e de finale, victoire 3-0 face à Bordeaux au stade Francis Leblé. Versailles a décroché sa qualification pour les 8e également en s'imposant face à La Roche-Vendée, 4-0. Voilà pour le club de National 2 qui sera donc représenté en 8e. Et puis Nantes s'impose face à Vitré, le club de N2 au stade de la Beaujoire, 2-0. Pas de surprise, Kevin Diaz qui est toujours avec nous. Pas de surprise dans ces premières rencontres. Il y en aura peut-être pour celle de 16h, même si on n'était pas très très loin avec les Canois.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas de surprise d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on aime aussi avec cette Coupe de France, on va pas se le cacher. Maintenant, c'est vrai que l'AS Cannes, encore une fois, n'était pas loin d'éliminer un club de Ligue 2, mais Toulouse a été meilleur. Toulouse aurait pu quand même marquer, a eu d'énormes occasions dans cette fin de match.
Bon, on reparlera longtemps également du choix de la FFF d'avoir quand même maintenu le match de Bordeaux qui s'est lourdement incliné.
L'essai d'Axel Muller, la réduction de l'écart pour le CA Brive alors que les Béarnais tentaient pourquoi pas d'aller marquer un quatrième essai synonyme de point de bonus offensif. Finalement, la belle réaction d'orgueil des brivistes, largement menée 36 à 13 par les Béarnais avec cet essai d'Axel Muller pour la réduction de l'écart. 36 pour les Béarnais, 18 pour le CA Brive avant la transformation à venir pour Enzo Hervé.
Allez, on suit évidemment cette 14e journée de top 14 qui se poursuit avec à 16h aussi UBB face à Biarritz. On ira dans un instant, dans un quart d'heure. Oui, Kevin.
Oui, j'allais dire, François, quand même bravo à cette équipe de Versailles qui fait un excellent parcours.
Oui.
Et donc un parcours historique en Coupe de France. C'est un club qui travaille très bien en National 2 depuis plusieurs saisons. D'ailleurs, ils sont montés plusieurs fois successivement sur les 4-5 dernières années. J'ai un très très bon ami à moi qui est Michael Niaoré, qui évolue dans cette équipe, qui est un joueur d'expérience et qui me dit que ça travaille très bien dans ce club de région parisienne, dans cette belle ville. Donc bravo à eux.
Et j'en profite pour saluer Jean-Luc Haribar, qui est le manager de cette équipe de Versailles et qui est très sympathique. Voilà. Et on verra si Versailles affronte, pourquoi pas, une équipe de Ligue 1 au prochain tour. On n'en est pas là. À partir de 16h, il y a donc 4 rencontres à suivre. Montpellier-Strasbourg, on va en parler dans un instant, au stade de la Mosson. Bastia, club de Ligue 2, qui reçoit Clermont au stade Armand Cesari. Nancy, club de Ligue 2, face à Rennes au stade Marcel Picot. Et Bergerac, club de National 3, face à Créteil, club de National. Est-ce que tu vois dans ces quatre matchs une surprise possible, notamment pour des clubs de Ligue 2 comme Bastia ou Nancy?
Bah, moi, la surprise qui ne serait pas vraiment une surprise, parce que tu as dit que Bergerac c'est National 3, mais c'est National 2. Hein. C'est National 2, le club de Bergerac qui est premier au classement et qui est un énorme club avec une grosse structure, une structure qu'on dit, ça fait partie de ces clubs amateurs un peu comme Cannes qui sont en fait des clubs professionnels puisque tous les joueurs ne font que du foot et ont des contrats. Donc attention à Bergerac Créteil, même si la surprise, on va dire, serait de moindre mesure. Après derrière, non, je vois pas Nancy dans l'état où ils sont en Ligue 2 aller battre Rennes, même si bien sûr on sait jamais. Par contre, Bastia Clermont, ça me paraît être peut-être le match le plus équilibré.
Ouais. Alors on va parler nous de matchs qui voient opposer deux équipes de Ligue 1 en forme. Montpellier face à Strasbourg avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut François. Salut Kevin. Salut à tous.
Meilleurs vœux. Meilleurs vœux évidemment. De se voir avec Montpellier, ça va bien. En plus, tu risques de passer une très très belle année 2022 hein, avec Montpellier qui va bien en ce moment, qui a fini l'année sur une note très très positive. Et en plus, pour Montpellier, l'avantage c'est qu'elle est moins touchée visiblement que d'autres clubs par tout ce qui se passe et par le Covid.
Exactement, ce club-là pour le moment passe entre les gouttes, hein. Même pas beaucoup impacté par la CAN, parce que bon, on en parlera tout à l'heure, mais seul Ambroise Oyongo est parti pour la CAN avec le Cameroun, mais il ne jouait pas beaucoup avec l'effectif d'Olivier Dalloglio parce qu'il revient d'une grave blessure et aucun cas de Covid, même s'il y a une suspicion pour Stéphane Mavididi, même si le club nous dit que c'est un autre virus qui affecte l'anglais. Mais voilà, dans cette période actuelle, on a évidemment en droit de se poser des questions, mais voilà, évidemment pas infecté par le Covid, pas touché par la CAN, qui reste sur 5 victoires dans ce mois de décembre, qui se retrouve 5e au classement à un tout petit point de la 2e place de l'Olympique de Marseille. Olivier Dalloglio a réussi sa mission, hein, Kevin, on en a souvent parlé, mais c'est vrai qu'il y avait un énorme chantier qui attendait Olivier Dalloglio en début de saison, avec la perte évidemment de Gaëtan Laborde, d'Andy Delors, un chantier offensif qui paraissait immense, un chantier défensif colossal également avec la perte de Hilton et de Congré. Et bien aujourd'hui, Montpellier a marqué plus de buts à la mi-saison que la saison dernière, avec pourtant Laborde et Delors, et en a encaissé beaucoup moins. Ils sont aux portes du podium et ils sont toujours engagés en Coupe de France, avec cette volonté, comme le disait Kevin tout à l'heure, de maintenir cette dynamique. Donc on a aligné l'équipe type sur la pelouse cet après-midi. On parlera tout à l'heure des compos, François, mais oui, les voyants sont au vert côté montpelliérain, qui est pour le moment, Kevin, on peut le dire, l'excellente surprise de cette première partie de saison.
Non mais c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire depuis le début de saison, avec tous ces départs, et en plus non seulement c'est des départs, mais c'est des départs à la dernière minute du mercato, dans les dernières journées, donc ouais, et des cadres, des joueurs, les meilleurs joueurs tout simplement. Allez, avec TJ Savanier qui lui est resté, mais sinon les deux autres c'était les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Ils ont perdu leur capitaine Hilton, qui était quelqu'un qui était ok sur la fin de carrière, un joueur assez âgé mais qui avait une aura et une présence énorme. Derrière, ils vont chercher Mamadou Sakho, ils vont chercher des joueurs comme Valère Germain, qui apportent aussi leur expérience, leur bonne mentalité. Non, vraiment, ce qu'ils font, c'est presque un exploit, j'ai envie de dire.
Et en face, Julien, en plus, il y a une équipe de Strasbourg offensive, une équipe souvent où il se passe des choses, en tout cas, où il y a pas mal de forces offensives. Donc, ce sont deux équipes qui vont nous offrir sans doute du spectacle, en tout cas, j'espère.
Ouais, exactement. Deuxième attaque du championnat, Strasbourg avec 34 buts marqués. Montpellier en est à 33. On se souvient de ce match fou la saison dernière où Montpellier s'était imposé 4-3 contre Strasbourg. Donc oui, c'est une équipe avec qui il se passe toujours quelque chose, avec Montpellier aussi. Donc voilà, ça devrait nous offrir du spectacle cet après-midi, même si contrairement aux Montpellierains, les Strasbourgeois sont un peu plus touchés.
Et le nouvel essai de la section paloise. Julien, je te coupe la chic. Cette fois-ci, l'œuvre de Jalé Vatubua pour le 4e essai béarnais. Le score est fait. La section qui mène désormais 41-20 face au CA Brive. Il restera 3 minutes à la section paloise pour essayer d'aller marquer un nouvel essai, donc glaner le point de bonus offensif pour l'équipe de Brive, qui ne ramènera rien de son déplacement en Béarn. Il faudra donc tenter d'endiguer la dernière offensive paloise. Le score donc de 41-20. La transformation à venir en faveur des Béarnais face aux Corréziens.
Vas-y Julien.
Ouais, les Strasbourgeois un peu plus touchés par le Covid. Bah déjà Julien Stéphan, le coach qui n'a pas fait le déplacement. Aoulou également touché par le Covid. Les absences de Niamzi et de Cassie, deux défenseurs titulaires dans cette défense centrale. Mais voilà, on a essayé de pas non plus trop toucher à cette équipe strasbourgeoise avec les Africains qui seront sur la pelouse. François, Alexander Djikou et Habib Diallo. Avant de partir pour la CAN, ils vont donc disputer ce match de Coupe de France cet après-midi. Et il y aura une petite nouveauté côté strasbourgeois, c'est Kevin Gamero qui va être aligné sous les deux attaquants, Ludovic Ajorc et Habib Diallo, en sorte de numéro 10 pour aider les deux attaquants. Mais voilà, en tout cas, une belle composition au côté strasbourgeoise aussi. Une équipe qui réalise une bonne première partie de saison à la 10e place. Voilà, c'est l'un des chocs de la journée, vu que Brest-Bordeaux a été un petit peu abîmé par le Covid. Voilà, c'est l'une des affiches, en tout cas, entre deux équipes de Ligue 1. Deux équipes de Ligue 1 qui tournent bien et qui devraient donc nous offrir, en tout cas, on l'espère, du beau spectacle cet après-midi.
Un coup d'envoi dans 12 minutes. On sera avec toi, bien sûr, Julien. Merci beaucoup. Et on va parier tout de suite sur cette rencontre.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Guillet de la rédaction des Paris RMC. Salut Johan.
Salut François, salut à tous.
Alors comment sont les cotes sur cette rencontre ? Difficile de parier sur une rencontre comme ça.
Exactement. D'ailleurs, les cotes sont très 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 équilibrées. 2,60 la victoire de Montpellier, 3,25 le match nul, 2,65 la victoire de Strasbourg. Des Héraultais en très grande forme depuis un mois, actuellement sur une série de 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Montpellier n'a surtout perdu que 2 rencontres à domicile en Ligue 1. C'était face à Marseille et face à Lyon. Mais attention, la dernière défaite de Strasbourg à l'extérieur remonte au 24 octobre. C'était à Rennes, sur le score de 1-0. Plusieurs absences à signaler, vous l'avez dit, Omlin et Mavididi côté Montpellierin. Côté strasbourgeois, c'est le secteur défensif qui est touché. Niamzi, Cassie et Aoulou ne sont pas du déplacement. Je vous propose donc de miser sur Montpellier qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2-15. Attention, match de Coupe de France, Montpellier qui ne perd pas, ça ne veut pas forcément dire qualification. Si le score final est de 1 partout et que Strasbourg se qualifie au tir au but, le pari est gagné.
D'accord. Kevin, avec toutes ces infos...
Je vois bien les deux équipes marquées dans ce match et je vais dire match nul parce que je vois une rencontre très équilibrée quand même.
Ok, donc globalement d'accord alors Kevin, le match nul plus les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,90 exactement.
Merci beaucoup Johan, d'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La fin du match de top 14 entre Pau et Brive, avec Pau qui a pris largement les devants dans cette partie.
François, qui va s'imposer. La sirène, les dernières secondes, le temps additionnel. C'est une belle munition pour le CA Brive. Un lancer, l'alignement au grand complet. Et peut-être que les Béarnais ont récupéré le ballon il y a un an avant. Et finalement, monsieur Troanini qui renvoie tout le monde au vestiaire. Victoire importantissime des Béarnais dans la course au maintien face au CA Brive. Les Béarnais s'impose au final 43-20, une pluie d'essais en deuxième mi-temps, au final 4 essais pour les Béarnais, 2 pour les Corréziens. Il n'y aura pas de points de bonus offensif, mais la belle opération, vous l'avez compris, donc pour cette section paloise qui marque son territoire à domicile et qui s'impose au final 43-20 face au CA Brive.
Merci beaucoup Paul.
Salut François.
Salut, à bientôt. Bye bye. Pau qui remonte à la 8e place du classement provisoirement, avec cette large victoire, alors que Brive va jouer le maintien sans doute jusqu'au bout. Brive 12e, on suivra d'ailleurs à partir de 16h, donc dans 9 minutes maintenant, le match vraiment, alors pour le coup, très déséquilibré entre l'UBB Bordeaux-Bègles, qui est leader de ce top 14 face à Biarritz, la Lanterne Rouge, c'est donc à 16h, et puis à 18h, Castres face à La Rochelle, et 21h05, le Loup face au Racing 92. La Coupe de France, donc la suite à partir de 16h, avec, on en a parlé, Montpellier-Strasbourg, mais également Nancy face à Rennes. Difficile, tu le disais Kevin, de voir une surprise nancéenne, surtout en ce moment. Nancy, dernier de Ligue 2, mais parfois la Coupe de France pour ces équipes-là, ben, c'est une sorte de bouffée d'air frais.
Je ne suis pas sûr honnêtement, que
ils ont battu 3, France... ils ont battu 3 lors du tour précédent.
Oui, oui, et puis en plus dans un match dantesque où ils ont pris, je crois au final, 3 cartons rouges, non, c'est ça.
Ouais.
Et donc c'était un match assez particulier, mais c'est triste un peu, hein, toi qui es un peu de la région, de voir ce grand club français, parce que oui, pour nos jeunes auditeurs, l'AS Nancy-Lorraine, c'est un grand club français, en tout cas c'est un historique de la Ligue 1. Moi, dans ma jeunesse, ils étaient quasiment tout le temps en Ligue 1 d'ailleurs, et de les voir si mal en point, notamment en championnat, c'est assez triste, comme je viens de dire. Maintenant, en Coupe de France, on sait que ça peut faire partie de ces matchs qui peuvent donner une dynamique, qui peuvent être particuliers et pourquoi pas relancer un peu cette équipe. On va voir.
on verra effectivement ce Nancy-Rennes. C'est une des rencontres que l'on vous propose de suivre en direct et en intégralité sur RMC. Et côté Rennais, on en parlera avec Valentin Jamin qui est sur place. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'absents. C'est pour ça aussi que peut-être que l'exploit nancéen est possible. Restez bien avec nous. On revient donc pour le début de ces matchs dès 16h du foot tout l'après-midi sur RMC avec la Coupe de France et 16e de finale en direct. À tout de suite.
RMC Intégral Foot Coupe de France.